Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 93. Mon nom est Paul Landreau et je suis avec mon collègue
Rémi Fréchette.
Pascal n'est pas là cette semaine, il y a un petit contretemps, il va peut-être venir nous rejoindre pour notre critique de Trois histoires d'Indiens à la toute fin de l'émission. Et on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir comme invité Jason Béliveau. Alors Jason, bonjour.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. Jason, tu es entre autres le cofondateur du site web Le 4-3.
Ouais.
Qui est un site de critique de cinéma qu'on aime bien, plus sur la région. En fait, toi tu viens de Québec et tes collaborateurs aussi, je pense.
Ouais, moi je viens de la Gaspésie, mais ça fait environ, je dirais, une dizaine d'années que je suis à Québec. La plupart des collaborateurs sont de Québec. Je pense qu'il y en a un qui a commencé à écrire, donc David, qui est à Montréal en ce moment. Okay. Donc, c'est généralement, le principe, c'était vraiment que ce soit situé là, vraiment à Québec.
Ça, c'est bien. D'ailleurs, moi puis Pascal, pour ceux qui ne le savent pas, on vient aussi de la ville de Québec. Donc, c'est quand même très drôle des fois quand je lis des articles comme sur le cinéma quartier, par exemple, dernièrement, qui est comme plein de nouvelles choses qui se trament là-bas.
Ouais, ça bouge beaucoup.
Et récemment aussi, tu annonçais que vous aviez franchi le cap des 200 critiques écrites. Donc, quand même, c'est quand vous avez fondé ça? C'est il y a 2-3 ans?
Ça va faire 3 ans cet automne, si je ne me trompe pas. Ouais, parce qu'au prochaine édition du Festival de cinéma de la Ville de Québec, ça va faire 3 ans, si je ne me trompe pas. Ouais.
OK, fait que vous avez comme profité du lancement du festival pour starter ça en même temps?
Oui, c'est ça. C'est un bel addon. Puis ça a commencé comme ça. Puis à chaque année, donc on couvre. Je dirais que c'est peut-être nous qui le couvrons le mieux et le plus. Parce que bon, c'est aussi ça un peu le principe de starter le site. À Québec, à proprement parler, c'est qu'à Québec, il n'y a pas vraiment de culture cinéphile, je dirais, en général. Puis les autres, quand le FCVQ est né, on s'est dit que c'était peut-être la bonne occasion, justement, de starter le site en même temps. Donc, on a une bonne historique avec le festival qu'on connaît bien, là, puis pour la 4e édition, ouais.
Ben, c'est assez concentré à Montréal, en fait, effectivement, tout ce qui est critique cinéma, ce qui est très cinéphile, fait que c'est vraiment bon d'alimenter ça en région, en fait. Là, moi, j'ai de Sherbrooke, puis ils viennent tout juste de fonder. En fait, ça se termine ce soir, alors qu'on enregistre la première édition de leur festival de cinéma. J'espère que ça a été comme ils voulaient, mais c'est vraiment difficile à l'extérieur de Montréal de vraiment tenir les gens alertes, en fait, là-dessus. Là. C'est vraiment bien, en fait, que vous fassiez ça directement dans cette belle ville-là.
Ouais, puis ben, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'étudiants, puis je pense qu'il n'y avait aucun élément fédérateur, je dirais. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le cinéma à Québec, mais il n'y a pas de lieu où il n'y avait pas de médias, en quelque sorte, justement, fédérateurs pour rassembler les gens. Bon, de là à dire ce qu'on a réussi à le faire, du moins, on essaie depuis 3 ans, justement, de rassembler les cinéphiles, puis les cinéastes aussi, les jeunes cinéastes de Québec, justement, autour d'un site où on peut réfléchir sur le cinéma, parce que, à mon avis, genre, je pense que le cinéma québécois, en général, aurait à gagner d'avoir, mettons, une deuxième scène riche, je veux dire, qui n'est pas seulement Montréal. J'adore Montréal, qu'est-ce qu'elle propose au niveau des médias, quoi que ce soit. Mais je pense que, par exemple, aux États-Unis ou en France, où tu as beaucoup de villes, tu as beaucoup de scènes qui sont différentes à travers les pays, je pense qu'au Québec, on aurait tout à gagner s'il y avait, mettons, des cinéastes de Québec qui feraient des trucs, qui produiraient des films, etc., etc. Là, donc... une diversité.
Moi, je me rappelle du défunt Festival des Trois Amériques aussi, qui se tenait entre autres au défunt Cinéma Charest. J'ai vraiment passé une partie de mon enfance au Cinéma Charest, dans des salles un peu crades, en face d'un très gros stationnement à plusieurs étages.
C'est quand même une salle quand même assez le fun de pouvoir justement des films d'horreur, puis des films un peu plus commerciaux. Je me rappelle d'avoir passé un été. Je pense que c'est le dernier été avant qui ferme, là, j'étais allé voir Le Dernier Exorciste, puis The Expendables, puis tous ces films-là. Puis le pire, c'est qu'étrangement, à Québec, maintenant, si tu veux voir ces films-là, faut vraiment que tu ailles à l'extérieur de la ville, faut vraiment que tu ailles en banlieue, dans les Cinéplex Odéon. Ouais. Donc, c'est un peu triste.
Et tu es également coordonnateur aux communications pour Antitube.
Oui, et maintenant aussi adjoint à la direction même.
Ah, ben félicitations.
Merci.
Et Antitube, peux-tu nous présenter ça rapidement?
Oui, ben c'est très simple. Antitube, on est un diffuseur d'événements cinéma et vidéo à Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on présente des films. On est un peu, comment je pourrais dire, on bouge beaucoup. On va dans plusieurs salles de cinéma, dans des lieux qui, peut-être aussi, normalement, présentent pas des films. C'est un peu comme une cinémathèque, à la différence qu'on n'a pas de collection personnelle. Donc, on va chercher nos films à l'international, justement, dans les cinémathèques à travers le monde. On contacte directement les distributeurs. et on fait des programmations à l'année. Donc, par exemple, le Musée de la civilisation à Québec, à chaque fois qu'ils vont faire une exposition, bien, ils vont nous contacter pour faire une programmation en lien avec une exposition. Comme récemment, ils ont une exposition sur Paris, puis on a fait un programme de 4 films avec Paris comme décor. Donc ça, on fait ça entre autres. Avec la Cinémathèque québécoise aussi, on organise à chaque année les sommets du cinéma d'animation que les gens connaissent probablement, mais ce que les gens savent peut-être moins, c'est que ce festival-là est vraiment fait. C'est un festival bimunicipal et donc c'est une coordination, c'est une organisation là, qui est vraiment faite égal à égal. Ben, égal à égal, je dirais que pour ce qui est de la programmation et du visionnement des films, il y a une grosse partie de la logistique qui est faite à Montréal avec Marco Deblois, qui est conservateur du cinéma d'animation cinématique québécoise. Ah oui. Mais je dirais que c'est ça. Donc, le festival a lieu dans les deux villes à chaque année. Donc, on s'occupe de ça également. Puis là, comme par exemple, il y a eu les RIDM, il y a eu un volet des RIDM qui est venu à Québec la semaine passée. Donc, c'est nous qui avons organisé ça avec les gens du RIDM. La semaine prochaine, le 23 avril, on invite Denis Côté qui va venir présenter Que ta joie demeure dans un atelier d'artistes donc au centre-ville de Québec, parce que le film Que ta joie demeure, on ne pense pas qu'il va être présenté dans une salle à Québec. Je sais que le CLAP ne l'a pas ramassé, le quartier non plus. Donc, je pense que c'est iSteel Film qui nous a approché en disant « Écoutez, on aimerait ça que le film soit présenté à Québec. Denis Côté est libre. Ça vous tente-tu d'organiser ça? » Donc, c'est vraiment super. C'est un peu ce qu'on fait à l'année. On s'associe beaucoup avec des événements, le Festival de la BD francophone de Québec. Donc, ce matin, on avait une rencontre avec Claude Cloutier, donc ancien BDiste pour Crow, entre autres, qui a fait du cinéma d'animation pour l'ONF. Donc, on est assez occupés.
Oh, mais c'est super. Et d'ailleurs, Que ta joie demeure, moi, je le conseille. J'ai vraiment aimé ça. Ici, à Montréal, il a joué comme une semaine à l'Excentrice. Là, il est plus à l'affiche. Et, mais il est toujours aussi disponible sur le site web de l'Excentrice, l'ONF.
Si vous réussissez à vous rendre au film.
Oui, si vous réussissez à le commander. Ben, parlons-en un peu de ça, parce que c'est un peu dommage. C'est un nouveau projet, que l'envergure, que l'ambition. Mais il y a quand même, moi j'ai souffert à quelques reprises de problèmes techniques. Il n'a pas réussi à commander certains films. Aujourd'hui encore, j'essayais de commander 3 histoires d'Indiens pour notre émission. Et finalement, bon, je suis allé sur place. Ça, c'est la joie d'habiter à Montréal. Mais mettons, pour toi, Jason, qui voulait l'écouter aussi pour notre émission, tu n'as pas pu le commander.
Non, c'est ça. Puis le film, je ne sais pas s'il va jouer à Québec. Je ne l'ai pas vu annoncé au CLAP. J'ai vérifié tantôt. Bon, il n'est pas sorti vendredi, évidemment. Il n'est pas annoncé. Le quartier, je pense pas qu'ils ont un historique avec Robert Morin de présenter ses films. Mais là, j'ai l'impression que ben, si tu es à Québec, ben, tu le loues sur le site de l'Excentrice ou tu ne le vois pas, tout simplement.
De mon côté, ça fonctionnait, en fait. Mais c'est probablement que la plateforme n'est pas encore assez stable. Directement sur l'ONF. Là. C'est effectivement dommage. Il y a tellement de films incroyables. Je sais que Pascal aussi en a vu quelques-uns pour le podcast directement sur cette plateforme-là. Puis à chaque fois, c'est des films très difficiles à trouver, en fait, qui donnent accès à des gens qui n'ont pas justement de cinéma de répertoire à proximité. Là. Mm-hmm. Donc, très, très à recommander.
Je considère quand même que le prix est quand même un peu dispendieux, c'est sûr. C'est parce que moi, quand je paye 11,50, je paye 11,50 pour avoir l'avantage d'être assis dans une salle confortablement devant un grand écran. Donc, je trouve 11,50 pour voir un film sur son ordinateur, le privilège, je trouve ça un peu cher, mais en même temps, bon, c'est sûr qu'ils peuvent pas faire nécessairement autrement. Puis bon, si j'ai la possibilité, ben, je l'ai pas eu, mais si j'avais eu la possibilité de voir le film à sa sortie, ben, c'est déjà ça, mais peut-être 11,50. Là, en même temps, je pense que s'ils diminuerait le prix, ça serait peut-être un incitatif à rester pour que les gens restent chez eux, puis c'est pas bon non plus. Là.
Ouais. en fait, c'est pour être clair, ça, c'est qu'il y a 2 tranches de prix. La première tranche à 10$ plus taxes, ce qui donne 11,50, c'est vraiment pour les primeurs, donc les 30 premiers jours qu'un film est à l'affiche. Ou comme là, mettons que ta joie demeure n'est plus à l'affiche, mais ça prend 30 jours avant qu'il baisse de prix. Okay. Ensuite, c'est 5$.
OK, à partir de là, c'est intéressant.
Ouais, puis c'est aussi une façon, je pense, de quand même donner un montant conséquent aussi aux créateurs.
Ouais.
Voilà. Et alors sinon, cette semaine, je ne vais pas en parler longuement. Mais j'ai
parce
vu
que tu as déjà fait tellement de statuts Facebook sur ce film-là que le sujet est quasiment couvert.
Ouais. Ben, en tout cas, j'ose espérer que c'est pas tout le monde qui m'écoute, qui nous écoute au podcast, qui sont mes amis et Facebook. Mais pour ceux qui ne le sont pas, le film The Raid 2 a pris l'affiche. C'est un film de Gareth Evans. C'est la suite de Raid Redemption. Et vraiment, c'est monumental. C'est un film d'arts martiaux, un film indonésien. Vraiment, là, pour moi, c'est l'un des films d'action les plus importants depuis des années. J'ai pas eu autant de fun dans un film d'action depuis comme Kill Bill. Et la vedette du film, Iko Uwais, je sais pas trop sûr comment prononcer son nom, pour moi, c'est la plus grande découverte du cinéma d'action depuis Tony Jaa, de Hung Back, là, il y a comme déjà 10 ans. Donc, vraiment, pour tous les fans de films d'action, ce film-là, avec un budget ridicule là, de 4,5 millions de dollars, met vraiment là, n'importe quel blockbuster d'Hollywood dans les cordes. Fait qu'on va sûrement en parler plus longuement au podcast prochainement, mais juste dire aux gens, je le recommande, je vous invite à aller voir ce film-là. Je vais sûrement aussi écrire un texte dessus. Alors, voilà.
Parce que la critique a été quand même assez généralement positive, parce que je voyais qu'Hélène Faradji également, je ne sais pas si j'ai lu le texte ou j'ai halluciné un texte. Je pense qu'elle en a peut-être juste parlé dans les réseaux sociaux, mais je pense qu'elle aussi, elle avait vraiment, vraiment adoré le film. Donc, je pense que c'est ça, il y a un bon vibe là, pour ce qui est de la critique également, là, qui semble beaucoup apprécier le film. Ouais.
Ouais, et même, je dirais que ne vous laissez pas décourager si vous n'avez pas aimé le premier film, parce que moi aussi, le premier film, je trouvais qu'il était vraiment pas bon, en fait, parce qu'il n'y a pas de scénario, il y a vraiment des personnages en carton. Et c'est en lisant un peu autour du film que je me suis rendu compte que, dans le fond, ça fait des années que Gareth Evans travaille sur The Raid 2, ce qui est devenu The Raid 2, mais son gros projet qui travaille depuis des années, mais qu'il n'a pas réussi à avoir le financement nécessaire. Donc, il s'est dit un peu en désespoir de cause, je vais faire un premier film beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste, dans lequel je vais montrer un peu comme ce qu'on est capable de faire, moi, puis la vedette qui fait de l'art martiaux, Iko Uwais, là. Donc, ils ont fait un tout petit film, vraiment sans scénario, ou presque. Là, c'est vraiment ridicule, là, le scénario
du premier. Le tagline le dit, là, c'est une minute de romance, 99 minutes d'action. Là, fait que, ouais. On s'attend pas à la grosse histoire, justement.
C'est ça. Et c'est ça, le premier film, dans le fond, à tout le moins, ça promettait vraiment un nouveau style d'action, quelque chose de très brutal, quelque chose de très violent, mais aussi de vraiment bien filmé, ce qui n'est pas toujours le cas hein, pour les films d'action. Donc le premier étant un succès, il a finalement pu faire le film qu'il voulait faire à la base. Donc vraiment, c'est à tous les niveaux de Raid 2, c'est plus gros, c'est plus ambitieux. Il y a enfin une histoire plus ou moins bien écrite quand même. Là. Des personnages aussi qui sont développés. Donc ça vaut vraiment la peine. Ceci dit, le sujet de cette semaine, c'est on voulait parler du cinéaste Robert Morin. Cinéaste et même, je dirais, vidéaste d'abord et avant tout. Robert Morin, qui est peut-être un de ceux qui a utilisé le vidéo le plus souvent et de différentes façons.
Ben, en fait, on en parle quand même assez souvent au podcast. Hein. C'est un sujet qui... C'est un cinéaste qui revient souvent, puis avec raison, là, en fait.
Oui, c'est une figure marquante là, du cinéma québécois. C'est un des cofondateurs aussi de la coop vidéo à Montréal. Et bref, c'est ça. Ça fait comme déjà quoi 30-35 ans qu'il fait du cinéma. Et ça vient de sortir, en fait, son tout dernier, Trois histoires d'Indiens. Mais avant d'attaquer ce film-là, on va peut-être d'abord chacun parler de c'est quoi notre relation avec Robert Morin, avec son œuvre, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui nous a marqué. Alors, je te lance la balle, Jason. Toi, un peu, c'est quoi ton lien avec Robert Morin? Est-ce que ça fait longtemps que tu le connais? Est-ce que ça fait longtemps que tu suis son œuvre?
Oui, quand même. Je dirais que ça doit faire peut-être 4 ou 5 films que je le suis ou que j'essaie de voir. Là, finalement, quand le film sort, je le vois. Avant ça, j'avais une connaissance qui était quand même assez abstraite. Je pense que mon premier contact avec Robert Morin, c'est quand j'étais au cégep. Là, ça va faire quand même quelques années, une dizaine d'années. Et il y avait un de mes colocs qui avait mis « Quiconque meurt, meurt à douleur » en disant « Il faut absolument que tu vois ça. » Tu vois, c'est hallucinant. Donc, toujours en se demandant si c'était vraiment un documentaire ou si c'était de la fiction, c'est sûr que bon, je le réécoute aujourd'hui, puis bon, c'est de la fiction, c'est sûr, mais ben, je pense qu'à l'époque, il y avait quelque chose d'assez bluffant, là, finalement, dans la mise en scène. Puis le Nègre aussi, que j'avais vu, que j'avais apprécié, mais après ça, là, ça a pris, je pense, peut-être Papa à la chasse au Lagopède, là, que j'ai vraiment recommencé à plus suivre Robert Morin. C'est un cinéaste que j'apprécie beaucoup. Je considère pas non plus que c'est un des plus grands cinéastes québécois. Je considère, je vais pas être plate, mais je considère sa réputation peut-être... Il est peut-être surestimé un peu, mais c'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui accomplit quelque chose que peu de gens accomplissent vraiment au Québec. Il y a vraiment un discours un peu plus... comment je pourrais dire... sans politesse, sans...
Il y a quelque chose de cru dans son cinéma.
C'est ça, exactement. Puis je pense que ça manque au Québec. Donc pour ça, mais j'apprécie beaucoup ses films. Mais de dire qu'il y en a un qui est un classique ou un chef-d'œuvre, là, je suis pas encore rendu là. Mais bon, un classique, un chef-d'œuvre, ouais. Qu'est-ce que ça vaut? Mais c'est un cinéaste que j'aime beaucoup suivre parce qu'à chacun de ses films, j'ai l'impression qu'il essaie de quoi? Qu'il sort des sentiers battus, qu'il sort de ses propres sentiers à chaque film. Donc ça, c'est louable.
C'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport au lien entre le documentaire et la fiction, parce que même dans un projet comme Quiconque meurt, meurt à douleur, c'est pas Robert Morin qui, dans son bureau, qui écrit tout à partir de la fiction. C'est vraiment basé sur des entrevues, sur des histoires qu'il a vécues de près ou de loin, qu'il a entendu parler. Je pense aussi qu'il y a plusieurs non-acteurs dans ce film-là.
Oui, il y a une partie vraie, il me semble que ça a été tourné vraiment dans une piquerie, mais tu sais, qui a été... ils ont eu la permission d'aller tourner là-bas, mais c'était vraiment des véritables lieux avec, il y avait des véritables junkies là-dedans. Fait que c'est vraiment la ligne est tellement mince entre la fiction puis la réalité, là, un peu comme avec un film comme Petit Papa Noël où il va mettre en scène son propre père, son vrai père. Son père qui avait comme un trouble physique, il était vraiment au bout de sa vie, là. Puis il l'a mis en scène, en fait. Puis son père a joué lui-même, mais d'une façon encore pire que sa condition. On le voit se faire changer sa couche, on le voit dans les... Ben, vraiment, c'est vraiment un portrait hideux de son père. Mais encore là, c'est la ligne entre la fiction puis la réalité est assez mince, là. Mm-hmm. C'est ça qui fait que... Je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi poignant. Là, tu regardes aussi Journal coopérant avec des sujets aussi lourds que ça, la façon que c'est tourné, il vient directement te rejoindre et te regarde dans les yeux puis te parle directement. Là.
C'est ça, parce qu'aussi, il joue dans plusieurs de ses films, en fait, et puis souvent, comme c'est intéressant de se demander à quel point c'est vrai, à quel point c'est faux. Bon, est-ce que c'est pertinent de se demander cette question-là? Je ne le sais pas, mais on sent, il y a un côté authentique, en fait, qui ressort de son œuvre, mm-hmm. Selon moi. Et puis, j'ai réécouté cette semaine, justement, pour le podcast Yes Sir Madame. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu. Et je pense vraiment que toi, Jason, tu disais que tu n'étais pas prêt à dire qu'il n'y avait aucun de ses films, que c'est un grand film. Mais je pense que Yes Sir Madame, c'est sûrement son aboutissement.
Okay.
Parce que c'est pour moi l'œuvre dans laquelle il explore le médium pour sa spécificité de la meilleure façon. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant, de très canadien aussi dans le film, tu sais, entre les deux solitudes. Puis juste aussi, c'est comme une espèce d'exploration de ces récits de voyage filmés qu'on peut faire. Donc pour moi, il y a ce madame... tire complètement profit, en fait, de l'utilisation de la vidéo, de l'utilisation de mini-films. Je pense que c'était tourné en 16 mm ou en Super 8, en 8 mm.
Ben, c'est la coop vidéo, habituellement, c'est vraiment du vidéo. Là, il va prendre des caméras mini-DV, il va prendre des formats très, très cheap, en fait, pour justement que ça ait l'air d'un found footage. C'est du faux documentaire, en fait, mais du faux documentaire dramatique, ce qu'on voit vraiment pas souvent. Il y a eu quelques comédies, puis il y a bien sûr la vague de faux documentaires d'horreur. Là, si on en a la pelletée avec le cinéma américain. Mais du faux documentaire dramatique, je pense qu'il y a un des seuls... Ben, je dis pas que c'est le seul, mais il y a très très peu de cinéastes qui font vraiment ça de cette façon-là.
Et peut-être aussi sur une aussi longue période, parce que je pense, en quelque sorte, j'ai l'impression qu'aussi Robert Morin, il tombe dans un certain piège de parfois donner au public ce qu'il attend, ou peut-être que certains de ses premiers films ont tellement eu un gros succès qu'il essaie de rejouer un peu dans les mêmes thèmes, dans les mêmes façons de tourner. Il y a certains films que je trouve vraiment qui apportent pas... Un peu comme... il me faisait penser à Tom et Goyan, dans le sens qu'il va... Il me semble, de film en film, il reprend les mêmes thématiques, il traite d'une autre façon, mais parfois, j'ai l'impression que c'est un peu du réchauffé, puis du remanché. Puis j'ai ça. J'ai écouté une couple aussi de ses courts-métrages. D'ailleurs, une très bonne ressource pour écouter, parce que c'est quand même dur à trouver, les films de Robert Morin. Il y a un très beau coffret DVD là, qui est disponible, Parcours du vidéaste, mais plusieurs de ses courts films, ainsi que Yes Sir Madame, sont disponibles gratuitement et légalement là, pour tous les Canadiens sur le site vitech.com, le site du vidéographe. Donc, c'est une bonne ressource pour les voir, surtout ces courts-métrages, outre le coffret DVD qui existe, qui est quand même pas si facile à trouver. Mais il est disponible, mettons, à la boîte noire, puis dans les universités, j'ai l'impression. Mais donc, c'est ça, j'ai écouté une couple de ses courts-métrages, et puis, comme le côté vidéo, j'étais pas convaincu de ce que ça pouvait apporter à certains films. Comme par exemple, il y en a un de ses courts-métrages qui s'appelle « Ma vie, c'est pour le restant de mes jours ». où on filme, dans le fond, c'est dans un petit bar, là, dans une petite ville, puis là, il y a comme des petites discussions de comptoir, puis là, un gars qui est sous, puis qui va un peu... il y a comme une espèce de petite chicane avec sa blonde, puis après ça, il va un peu comme philosopher sur l'effet de l'alcool un peu. Mais c'est une espèce de scène, il me semble, qu'on retrouve souvent dans son cinéma, tu sais, quelqu'un qui va parler à la caméra ou qui va parler à quelqu'un proche de la caméra, puis qui va se mettre à un peu réfléchir sur le sens de la vie. D'ailleurs, c'est la scène qu'on retrouve encore une fois dans Trois histoires d'Indiens.
Ouais,
puis j'ai l'impression des fois que c'est ça, c'est qu'il y a comme des tics de mise en scène que je trouve à la longue finissent par agacer. Mais ça, c'est personnel, là. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est juste moi qui trouve qu'il se répète un peu trop, mais...
Ben, je pense, vu que c'est un des seuls qui fait ça, je pense que ça va dans sa signature, un peu comme un... Ben, t'sais, chaque cinéaste ont leur propre réflexe, puis ils ont quelque chose qui vont signer leur propre film, là. Moi, ça m'a pas dérangé, en fait, dans un film comme Trois histoires d'Indiens, puis même à ça, en fait, c'est longs métrages qui ont été faits comme ça. Je pense qu'il y a fait comme une... Il y a comme une trilogie, là. Il fonctionne un peu par trilogie, dont avec Journal d'un coopérant, puis Papa la chasse au logopède, puis Petit Papa, je pense que ça fait partie d'une genre de trilogie dans cette esthétique-là. Mais même, tu sais, il réussit quand même à sortir quelques fois. Tu sais, Le Nègre, on est vraiment ailleurs avec son esthétique. Les Quatre soldats aussi, là, qu'on avait vu à Fantasia l'année dernière. Moi, ça me dérange pas personnellement. Je trouve que ça contribue à son style.
Mais pour ce qui est de la mise en scène à proprement parler, je veux dire, ses œuvres sont peut-être moins reconnaissables au niveau de la mise en scène pure que, par exemple, un Denis Côté ou d'un autre cinéaste. Mmh. J'ai l'impression que, puis de ce que je connais de Romain Morin, ce qui n'est pas d'étonne, mais l'homme, le cinéaste, c'est qu'apparemment qu'il n'est pas très grand cinéphile. Puis j'avais assisté l'an passé au rendez-vous du cinéma québécois. Il donnait une sorte de classe de maître, là, puis avec son côté un peu, je vous parle comme ça sort, puis je me suis pas trop préparé, puis de la façon qu'il parlait, c'est pas l'air d'être un gars qui écoute beaucoup de films ou qui est très au fait de qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il disait que aussi qu'il peut retourner dans le bois, il est bien content, fait que j'ai l'impression aussi que ça se traduit dans son œuvre, puis peut-être positivement, parce que je vois que... Moi, j'ai l'impression plutôt qu'à chacun de ses films, il fait vraiment des tentatives assez assez radicales. Par exemple, Journal d'un coopérant, qui était bon, c'est ce genre de journal en première personne, sur cet électricien-là en Afrique, puis bon, avec toute l'histoire qui se passe, mais le film a été diffusé en capsule, puis il invitait les gens, n'importe qui chez eux, de répondre finalement au personnage, donc il prenait... Puis ça, des expériences comme ça, j'ai pas mémoire qu'il y a beaucoup d'autres cinéastes qui ont essayé ça, c'est-à-dire de proposer au public de participer finalement à la création d'un film en leur disant « Si vous voulez vous-même vous mettre en scène à l'intérieur de mon film, ben faites-le, prenez une caméra puis réagissez finalement au périple de ce personnage-là en Afrique. » Bon, ce qui est arrivé, c'est que ça a pas vraiment levé. Moi, j'ai vu quelques-uns des vidéos que les gens avaient fait en réaction. C'était pas très bon. Puis finalement, l'expérience a un peu été avortée, justement, manque de matériel intéressant. Mm-hmm. Mais juste ça, je vois ça, c'est quelque chose qui est absolument inédit dans l'histoire du cinéma, quasiment at large. Puis je sens que ça revient souvent, je pense qu'il aime ça brasser les cartes, puis je pense qu'il aborde chacun de ses films comme étant un projet. Puis par exemple, Denis Côté, c'est un cinéaste que j'adore, mais quand il fait « Mettons que ta joie demeure », ben tu sais que c'est comme une suite à Bestiaire, qui est en quelque sorte une suite de Carcasse, qui est en quelque sorte une suite... Il y a quelque chose qui se répond, là, je veux dire, c'est absolument clair. C'est quelque chose que tu reconnais au premier plan, tandis que Morin, même un film que Dieu bénisse l'Amérique, ou, tu sais, je veux dire...
Parce que c'est un film qui m'est sorti de la tête, en fait, je l'ai vu, puis j'ai très peu de souvenirs. Des fois, justement, c'est des films qui sont un peu oubliables, là. Je pense que Quatre soldats aussi, on avait parlé, c'est un bon film, c'est un film qui est écoutable, mais à un certain point, il n'y a rien de edgy comme dans ces autres films qui viennent vraiment de donner une claque d'en face, là.
Mais moi, j'ai beaucoup aimé les Quatre soldats, justement, pour ça, c'est ce côté un peu plus tendre chez Robert Morin qu'on voit, mais peut-être pas aussi... clairement dans une certaine mesure, parce que c'est un film assez humaniste, je dirais, puis c'est ces quatre personnages-là donc qui deviennent une sorte de famille de fortune, puis qui apprennent... J'ai trouvé ça quand même assez attendrissant, puis sous ce décor-là pratiquement post-apocalyptique au Québec, c'était quand même assez marrant, puis aussi bien rendu aussi dans une certaine mesure, c'était quand même assez crédible. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant, justement la preuve qu'il essaie des trucs. Puis c'est une adaptation aussi d'un roman, donc c'est quelqu'un qui, je pense que chacun de ses films, essaie de se réinventer, puis bon, c'est tout à son honneur.
Mais non, c'est ça. Moi, en fait, j'ai raté un peu, je pense, ces gros films de fiction comme Que Dieu bénisse l'Amérique. Il me semble que c'est quand même un film avec un plus gros budget puis une plus grosse distribution. On parle quand même pour un film de Robert Morin.
Robert Morin, oui, effectivement. Là. Parce qu'il y avait, comme... vraiment beaucoup de gros noms dedans. Ben, un peu comme Le Nègre aussi, c'était quand même une grosse distribution. C'est quelques fois, on dirait, au travers de sa filmographie, qu'il décide de faire une espèce de film.
Qui décide ou qui peut-être qu'il réussit.
C'est une fiction là, poussée, là, ben oui.
Je sais pas à quel point il y a toujours. Le moyen d'aller chercher des budgets comme ça. Là.
Ben oui, parce que c'est ça que je trouve le plus trippant avec Morin, c'est que c'est un rebelle puis il fait ce qu'il veut. T'sais, s'il peut pas faire son film, il fait son film quand même. Les trois histoires d'Indiens, il l'a réalisé pour 150 000 puis il a tourné ça sur quelques années. Il a vraiment, le projet s'est étiré sur quelques années. Malgré la simplicité du film, il l'a fait parce qu'il fallait qu'il le fasse. T'sais, c'est quelque chose de viscéral pour lui puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment admirable. Puis à côté, ben, il va faire des films un peu plus ambitieux comme Les Quatre Soldats puis comme Le Nègre, puis Que Dieu bénisse l'Amérique. Puis aussi, un qu'on n'a pas encore parlé, mais Requiem pour un beau sans-cœur, là, ça, c'est vraiment ouais. Un film très solide de Morin. Dans les cours de cinéma québécois à l'université, je me souviens que c'était lui qui nous avait présenté pour présenter la filmographie de Morin. Puis ça, on voit vraiment le rapport entre la fiction, le faux doc. On est toujours comme une espèce de caméra de documentaire qui suit un criminel recherché joué par Gilda Roy. Gilda Roy qui est dans un de ses bons rôles, là, parce que je pense que Gilda Roy, ouais, c'est pas comme le plus grand comédien du Québec. Là.
Non, mais même à ça, je pense que le rôle est très, très... Ben, sa performance est très, très bonne. Là. Peu importe
qu'on
compare à des films à petit budget ou des grandes performances. Je veux dire, c'est vraiment une performance marquante. Là.
Ah, c'est vraiment une performance marquante, exactement. Ça ressemble beaucoup, en fait, on voit que c'est beaucoup inspiré de la poursuite de Mérine, en fait, dans les années, ces années 70, je pense, Mérine. Il y a un film là, qui est sorti avec Vincent Cassel là, sur l'homme, là, mais je pense que c'était vraiment beaucoup inspiré de ça, l'espèce de criminel recherché numéro un au Québec, puis juste être directement dans l'action avec les caméras. J'avais jamais vu ça autant au Québec qu'aux États-Unis quand j'ai vu ce film-là. C'était vraiment, vraiment spécial en fait à écouter là, comme expérience. Les acteurs s'adressent à la caméra, puis t'es directement avec eux là, dans leur bottine.
Ben, moi, t'as touché à quelque chose, Rémi, puis c'est quelque chose que moi, je suis pas convaincu. Puis je vous demande votre avis, mais tu dis, tu sais, malgré qu'il n'a pas réussi à avoir du financement pour les trois histoires d'Indiens, il a tourné sur plusieurs années parce qu'il voulait faire comme ça, quitte à prendre, tu sais, mettons, des caméras mini DV ou HD ou peu importe. Mais est-ce que parfois, est-ce que ça ne nuit pas au film, au nom de la liberté créative, de prendre peu importe quelle caméra cheap, puis d'aller tourner coûte que coûte, tu sais... À défaut, mettons, d'être patient, puis peut-être aller chercher de l'argent ailleurs, un autre dépôt, peut-être à retravailler un peu le scénario ou à faire des concessions. T'sais, jusqu'à quel point la liberté d'expression ou...
Je suis pas tant d'accord, en fait. Puis surtout, le fait qu'il ait tourné sur longtemps, ça prouve qu'il est allé au bout de son idée puis qu'il a pas juste botché. Puis il l'a pas fait pour le faire. Il a quand même pris le temps de le tourner, ce film-là, puis de le faire à sa façon. Puis effectivement, l'image est un peu... C'est pas du gros HD super bien tourné, super bien éclairé, c'est pas de la direction photo ultra poussée, mais je pense que ça contribue au genre documentaire. Il y a des bouts, on dirait qu'on est vraiment en train de suivre les personnages dans un style doc, en fait, bien assumé, là. Ben, on en reparlera tantôt, en fait, là, quand on va rentrer peut-être tous en profondeur dans le film, mais moi, je pense que c'est juste de balancer comme Quatre Soldats, il aurait pas pu le faire de cette façon-là. L'esthétique est rendue de cette façon-là. D'un autre côté, les trois histoires d'Indiens, on est vraiment dans quelque chose qui peut se faire sans budget. Je pense que c'est plus la réflexion derrière le film, c'est la façon qu'il a développé son récit, mais qu'il a développé son message en fait à travers ses protagonistes, là, que là on trouve quelque chose de vraiment intéressant là.
Parce que je sais pas, je pense que des fois on dirait qu'il retourne vers la vidéo, vers la caméra mobile, presque comme un réflexe, comme un filet de sécurité, puis je me demande si ça peut pas lui nuire parfois. Puis comme encore sur ça, comme sur Trois Soirs d'Indien, c'est lui qui fait la caméra. Il était comme tout seul, il amenait sa caméra une couple de jours. J'ai lu une entrevue avec Jean-Méry Lanlot. T'sais, il explique que ça s'est fait sur comme 4 ans, puis j'allais une journée ou deux à la fois. T'sais, je payais les acteurs à la journée, parce que c'est des non-professionnels, dans le fond. Quoique certains travaillent avec Wapikoni Mobile. Donc, mais c'est ça, toujours ce côté un peu rebelle, coûte que coûte. Je sais pas à quel point ça lui sert. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Jason.
Ben, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que Morin aurait probablement de la difficulté à mettre un beau plan léché dans ses films. Je pense que c'est vraiment l'antithèse de ce qu'il essaie de faire. Puis bon, je pense que si l'esthétique est moche, néanmoins, ça reste de l'esthétique. C'est sûr que j'ai toujours l'impression qu'il y a un côté un peu bâclé dans ses films, pas dans tous ses films. Je pense pas nécessairement que ce soit négatif. Je pense que justement cette idée-là de revenir à la caméra vidéo, je pense qu'il doit avoir une certaine forme, je ne veux pas dire de confort, mais peut-être de facilité pour lui d'atteindre justement quelque chose d'un peu plus urgent dans son cinéma, juste travailler avec des non-professionnels ou quoi que ce soit, qu'avoir une équipe vraiment lourde qui viendrait peut-être... Bon, en même temps, c'est relatif parce que de plus en plus, je veux dire, des équipes de tournage, tu peux être 3-4 personnes puis te ramasser avec des images vraiment incroyablement léchées. Je pense que ça fait pas partie de son vibe, si on peut s'exprimer comme ça. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, c'est cette idée-là de faire un film à 150 000, puis après ça, l'autre année, en faire un autre avec un plus gros budget parce que tu as fait une demande il y a 2 ans. Je trouve ça absolument magnifique. Moi, Robert Morin, c'est ce que Falardeau aurait dû faire au lieu de se plaindre, je vais être plate, là, mais au lieu de se plaindre.
C'est ce que tu es en train de dire.
Mais c'est ça, c'est parce qu'on est tellement poli au Québec par rapport à nos cinéastes que je veux dire, les 20 dernières années de sa vie, Falardeau, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plaint parce qu'il n'y avait pas d'argent, puis parce que l'État voulait pas y en donner. Tu sais, je veux dire, moi, le film, mon film préféré de Falardeau, c'est... j'ai oublié le film, là, c'est le petit court-métrage là, avec le Beaver's Club.
Le Temps des Bouffons, là.
Le Temps des Bouffons, qui est, à mon avis, son chef-d'œuvre, même si c'est un film, c'est un court-métrage. Puis c'est quelque chose qui est fait probablement
très
avec les moyens du bord. Ils ont pris des caméras et sont allés filmer. Puis, fait que Robert Morin, justement, cette idée-là. Puis il y a beaucoup de jeunes cinéastes aussi qui gagneraient à agir de cette façon-là. Denis Côté est un bon exemple aussi. C'est quelqu'un qui va tourner un film par année. Puis je pense que n'importe quel cinéaste peut le faire. S'ils lui disent, ben, faut que j'attende mon 4 millions. Pour faire mon film, ben écoute, en tout cas, ça m'intéresse moins, c'est un peu précieux. Puis Morin, ben il y a ce petit côté un peu trash-là, puis il a toujours été comme ça. Puis ben si ça donne une photographie un peu plus moche, puis les coins sont tournés ronds, ben moi je suis prêt à accepter ça là, pour avoir un cinéma. Moi, puis, bon, 3 histoires d'Indiens que j'ai pas vues, vous allez en parler tantôt, mais bon, justement, c'est de traiter, bon, je sais pas, de la condition amérindienne ou de prendre des Amérindiens. Quelque chose qu'on fait pas au Québec, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Il y a eu Roche Papier Ciseaux qui en traitait un peu. Il y a des trucs comme le film Maina qui vient de sortir, si on peut considérer ça comme un film qui traite. Qu'est-ce qui se passe chez les Amérindiens ou les Innus ou quoi que ce soit. Mais juste dans le sujet, c'est quelque chose qui est magnifique là, d'avoir un sujet comme ça, en tout cas.
Non, c'est vrai. Puis les comparaisons avec Falardeau aussi sont vraiment... ça ne s'arrête pas là parce que aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'afficher autant politiquement que par rapport à l'industrie peut-être du cinéma. Il y a une couple d'années, il y avait une petite controverse par rapport au Gala des Jutras, parce qu'il était nominé comme meilleur réalisateur pour le film Papa la chasse au logopède. Et il y a plusieurs... En fait, il y a des amis ou des gens qui votaient, qui lui ont dit personnellement, tu sais, j'ai pas vu le film, mais j'ai voté pour toi parce que j'aime ce que tu fais, tu sais, en manière générale. Puis ça, il avait sorti ça dans les médias, en entrevue, puis tu sais, ça avait jeté une espèce de douche froide sur le Gala des Jutras, qui est, selon moi, pas nécessairement réglé encore de nos jours. Tu sais, je pense qu'il y a 2 ans, Raphaël Ouellet prenait des photos du formulaire pour voter, puis c'était marqué, tu sais, il y avait une indicative du formulaire officiel qui disait « Il n'est pas nécessaire d'avoir vu tous les films pour voter. » Le genre d'incohérence un peu du Gala des Jutras. Et cette année, on en parlait, il y a une couple d'épisodes, mais tu sais, le Gala des Jutras... C'est tellement une espèce de gros show télé, on essaie de se réconforter avec nos vedettes. Il y a quand même très peu de choix audacieux. Ensuite, est-ce que c'est seulement une question de circonstances? Puis est-ce que ça donne que cette année, c'était plutôt vers le cinéma populaire avec Gabriel et Louis-Cyr? Je ne sais pas. Je n'ai pas nécessairement prêté de mauvaises intentions. Ouais. Mais c'est le fun de voir un Robert Morin comme ça qui ose un peu dire ce qu'il pense dans les médias sans... On sent qu'il n'y a pas d'attaché de presse, Robert Morin, tu sais, qu'il n'y a pas de quelqu'un qui gère son image.
Mm-hmm. Oui, il fait ce qu'il a à faire, puis that's it, il fait ses films. Puis c'est fou, moi, ça, je capote de juste comme... Tu dois avoir vu tous les films. Obviously, là, t'as 5 films à voir pour Best Picture au Québec, là. T'as 5 films à voir, là. Je sais pas qui a pas le temps de regarder ces 5 films-là. C'était dans le jury, c'était dans le... En tout cas, bon, ça, c'est un autre sujet, là, mais...
ça me semble. Ben c'est ça, c'est une question de bon sens, parce qu'il y a, il y a une belle hypocrisie d'un gala comme les Jutras, qui sont là pour célébrer le cinéma qui se fait ici. Puis là, d'un côté, t'as des gens qui disent à Robert Morin, ben j'ai pas vu le film, mais j'ai voté pour toi, ce qui est absolument hypocrite puis inacceptable. Puis quand Morin met ça en lumière, ben c'est simplement du gros bon sens. Puis en même temps, après ça, on se dit, on va rendre hommage au cinéma québécois pour Disparu. Excusez-moi, faut que j'en parle parce que je l'ai à travers la gorge. Mais après ça, on fait un hommage à Bro, puis à Bac, et à tout Disparu, puis c'est Loca Locas qui viennent rapper, genre, sur les images de Bro qui est mort. Moi, ça me fait, ça, j'ai envie de pleurer. Là. Puis c'est il y a quelque chose d'assez hypocrite dans le milieu, puis que Robert Morin ait le courage. Bon, on te parlait de Raphaël Ouellet aussi, mais c'est extrêmement cynique d'agir de cette façon-là par rapport à notre cinéma. Puis Robert Morin, je pense qu'il n'a jamais accepté ça. Puis, ben voilà.
Oui, parce que veut, veut pas, il y a un certain quand même star system au Québec, qu'on le veuille ou non, qui n'est certes pas celui de la France ou des États-Unis. Mais, tu sais, c'est un peu dans le fond, soit tu fais partie de la gang ou soit tu l'es pas. Donc, ouais, il y a quelque chose d'un peu dommage là-dedans. Moi, j'ai pas vu justement le numéro de rap. Tant mieux si je l'ai pas écouté.
Tant mieux, t'as manqué ça, là. Ben, puis l'année d'avant, on se rappelle que Rémi Girard avait essayé de faire un rap aussi pour aller rejoindre les jeunes. Là. Ça ressemblait à rien, là. C'était Jutra, yo, Jutra. J'ai Rémi Girard super mal à l'aise sur une scène qui a pris un texte par cœur qui est pas du tout naturel, qui hack, là, qui est pas, qui a aucune chaleur. C'est vraiment étrange comme gala, en fait.
Ce qui est drôle, parce que, tu sais, à chaque année, il y a combien de films québécois qui s'adressent aux jeunes, qui intéressent les jeunes, qui sont à propos des jeunes. T'sais, je trouve que notre cinéma est quand même un cinéma plutôt pour les personnes, pour les adultes, mettons, pour les quarantenaires, les cinquantenaires, t'sais, la génération un peu nos parents. Il y a plein de jeunes cinéastes, t'sais, les Raphaël Ouellet, les Denis Côté, les Chloé Robichaud, Xavier Dolan, etc., t'sais, qui mettent en scène des protagonistes jeunes. Mais globalement, quand je regarde sur une année, c'est plein de drames, c'est plein de familles dévastées, des trucs, des veufs, des veuves.
De crise de la cinquantaine. Il y en a eu beaucoup aussi.
Donc, de voir un Rémi Gérard en plus, t'sais, pas un jeune acteur, là, pas. C'est quoi son nom, là, le grand qui a joué dans Les Jaunes?
Jason Roy-Lévy?
Ouais, Jason Roy-Lévy, ça aurait pu être lui, mettons, qui rappe quelque chose, ça aurait déjà plus de sens. Que, tu sais, là, c'est comme ton mononcle à Noël qui essaie de faire une joke pour les jeunes, ça marche juste pas. Là. Mais bon, pour en revenir à Robert Morin, aussi, il y a quelque chose, pour moi, qui rejoint un peu, à un certain point, Gilles Carle, dans le sens qu'il traite de la sexualité vraiment de manière anodine, puis de manière aussi très, très franche, ce qui n'est pas tout le temps le cas pour tous les cinéastes. On dirait qu'on est quand même très prude au Québec. Et aussi, c'est ça, c'est qu'il nous apporte quand même dans une espèce d'univers qui est relativement littéraire quand même. Je trouve que dans ses dialogues, il y a toujours de quoi d'un peu écrit, qui n'est pas nécessairement négatif, ce que je dis. Je trouve que ça apporte un certain quelque chose, même si parfois, les tournures de phrases ou le phrasé, mettons, de Robert Morin quand il se met en scène, c'est assez populaire. Mais il y a quand même quelque chose d'écrit dans ces dialogues. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, ben, je suis assez d'accord avec ça. Parce que je prends l'exemple de Quiconque meurt meurt à douleur. Puis c'est ça. Donc, au premier abord, tu te dis, bon, c'est improvisé ou quoi que ce soit. Là, tu te rends compte. Puis c'est peut-être dans le phrasé que tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'écrit. Puis c'est justement, en même temps, là, je ne sais pas s'il pourrait comme confirmer ce qu'on avance, mais justement, il y a cette impression-là que c'est écrit. Puis justement, c'est pas une mauvaise chose parce que cette écriture-là est vraiment belle, même si c'est une écriture qui est un peu plus, je veux pas dire joie, mais c'est très près d'un phrasé québécois. Mm-hmm. Puis je me rappellerai toujours, puis justement, je ne sais pas si c'est une scène qui est écrite, mais je me rappelle plus de son nom, là, mais c'est celui qui veille là, à la fenêtre dans Quiconque meurt meurt à douleur, quelque chose comme... je m'en rappelle plus, genre Pessic ou Spider, je me rappelle pas, là. Donc c'est lui qui a les bagues, puis à un moment donné, il dit au caméraman, il dit, viens, ben, je vais te dire de quoi, puis il fait un gros speech sur sa vie, puis il monte ses points, puis dis-moi, c'est avec ça, j'ai marché toute ma vie, il dit, puis si tu te mets dans mes chemins, puis si tu me causes des problèmes, ben, c'est ça qui va parler, puis moi, ces deux points... Avec ses bagues, puis cette scène-là, moi, m'a toujours absolument traumatisé quand je l'ai vue la première fois, parce que c'est quelque chose d'assez... c'était à glacer le sang. Puis là, je l'avais vraiment ressenti, je me suis dit, c'est probablement écrit en quelque sorte, c'est pas l'acteur qui improvise ça, là. Donc, c'est évidemment, puis même chose pour Journal d'un coopérant, ou je prends de n'importe quel exemple, effectivement, il y a quelque chose qui... Il y a quand même un amour de la langue, j'imagine. Je sais pas si ça pourrait être développé, si les gens pourraient... étudier un peu plus son rapport justement au scénario puis au dialogue et tout ça, mais effectivement, je pense que c'est là. Donc.
Comme un peu une espèce de poète de la rue, poète du quotidien un peu, pas loin peut-être même de Michel Tremblay, je sais pas, tu sais, cette espèce de fascination de jouer avec les mots des gens de tous les jours qui nous côtoient, les petits gens dans un village, ou des Amérindiens, ou des pauvres, ou des crosseurs, ou, tu sais. Il y a ce petit côté, justement, qui s'intéresse vraiment à tout, sauf la bourgeoisie, puis sauf la classe moyenne, finalement.
C'est une des raisons, à mon avis, pour laquelle que Morin sera jamais un cinéaste populaire, malgré, moi, quand les 4 soldats sont sortis, je dis « allez voir le film de Robert Morin », puis je suis pas le seul, tout le monde le dit, tous les critiques le disent. Puis c'est un cinéaste, j'ai l'impression qu'il fait pas beaucoup d'argent au box-office ou quoi que ce soit, ses films sont pas vus, puis j'ai l'impression parfois que c'est ça, c'est ses thèmes, c'est ses personnages, il y a quelque chose qui est très loin du politically correct, tu prends même Journal de coopérante, il se met en scène, puis c'est un type qui est un potentiel pédophile. Fait que déjà, en partant, tu viens de te couper bien des gens qui veulent pas aborder ce genre de cinéma-là, ou ce genre de personnages-là. Puis systématiquement, c'est toujours des sujets qui sont extrêmement rough. Quand tu vas vers ses premiers courts-métrages en vidéo dans les années 70, c'est quand même, moi, je trouve ça absolument fascinant, puis intéressant, puis nécessaire d'avoir un cinéma comme ça. Mais qui sait que ça s'intéresse vraiment quand que tu sais que c'est Louis Cyr qui a fait le plus d'argent l'an passé au box-office, qu'on est en train de faire justement à la recherche des héros. Mais dans Robert Morin, c'est tout sauf des héros, il n'y en a jamais. Donc il y a peut-être les 4 soldats, puis on pourrait s'imaginer que les personnages sont un peu plus attachants, mais même là, il y a quelque chose d'absolument dark puis triste dans le film. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'il est condamné, puis je pense qu'il l'assume. Je pense pas qu'il n'ait jamais voulu faire un film qui allait marcher au box-office, puis il assume ce côté-là.
Donc, on va maintenant accueillir Pascal Plante qui vient nous rejoindre, in extremis. Bonjour, Pascal.
Hey, salut tout le monde. Crime, je suis là pour la fin. Je suis là pour la pièce de résistance, à ce que je crois comprendre.
C'est ça, on était rendu à parler de son dernier né, Trois histoires d'Indiens, de Robert Morin, qui vient de prendre l'affiche au cinéma Excentrice et qui est également disponible sur le site web. Donc, Trois histoires d'Indiens, en gros, le synopsis, c'est que ça suit, on parle, c'est ça, des peuples des Premières Nations, trois histoires de jeunes Indiens, peut-être 18-19 ans. Le premier, Eric, et ça aussi c'est étrange, je m'en vais en parler, mais tous les acteurs portent leur propre nom. Donc, Eric Papaty, qui lui est le plus jovial, très positif, malgré peut-être une enfance pas si facile, qui se met en tête de monter, dans le fond, une station télé communautaire pour le peuple, en fait, pour les Premières Nations, pour le village. Une autre histoire met en scène un jeune qui écoute toujours de la musique classique, qui parle jamais vraiment et qui a l'air un peu reclus.
Les symphonies pompeuses de Wagner, puis Ravel, puis Berlioz, puis des grosses affaires, là, vraiment. Ouais.
Du Bartok aussi, là. Ouais, Bartok, les grosses symphonies hyper dramatiques.
Qui font un contraste très intéressant, ça donne quelque chose de lyrique. En tout cas, on va y revenir, j'ai l'impression, mais ouais.
Et c'est ça, la dernière histoire met en scène un trio de jeunes femmes qui ont un côté un peu mystique, ils se mettent des voiles, ils veulent faire subir des sévices à leur corps. Donc, c'est un peu comme ça. Les trois histoires alternent sans nécessairement se recouper, mais on est tous un peu dans le milieu des villages indiens. OK, donc, Pascal, où tu viens d'arriver, je vais te laisser l'honneur de lancer le bal. Qu'est-ce que tu as pensé de trois histoires d'Indiens?
Ben ouais, c'est ça, tu l'as dit. Moi, j'ai trouvé les trois histoires se répondent bien quand même. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé que le tout était un peu rapiécé, un peu inégal, peut-être par moment dans comment c'est filmé. Par contre, je trouve que la somme des trois histoires et des trois points de vue qui sont justement trois jeunes, c'est des points de vue de jeunes, donc de la relève, mais moi je trouve que c'est trois attitudes un peu violentes vis-à-vis de la désolation, en fait, carrément, liées un peu aux réserves autochtones. Je sais que Robert Morin utilise même le mot apartheid, là, tu sais, c'est une apartheid carrément au sein de notre province, puis tu sais, on veut pas vraiment mettre le mot là-dessus, mais c'est ce que
pas,
c'est.
Pas dans le film, mais en entrevue, il utilise ce mot-là.
Ouais, exactement, non, c'est ça. Dans le film, c'est toujours plus... c'est plus doux, mais encore là, c'est à travers cette douceur-là, je trouve qu'il y a des choses qui sont très intrusives, comme le Walmart devient un symbole d'agression, là, de violence inégale, là, tu sais, c'est quoi, où Mané, comme t'as un autochtone qui mange au McDo, par exemple, puis tu peux pas t'empêcher de graisser des dents, comment ces symboles occidentaux-là sont intrusifs, en fait, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est le bienvenu, puis ça s'est comme glissé de façon subliminale à travers le quotidien de ces gens-là, mais de façon violente, carrément, puis même, à Mané, je pense, il y a de l'ironie, il y a comme un des personnages qui a un symbole du Canadien de Montréal dans sa chambre, puis tu peux pas t'empêcher de te distancier, puis d'être un peu triste au fait de la réalité dépeinte qui est assez désolante, je t'avoue. Puis comme je te dis, j'ai trouvé que les trois attitudes qui sont très différentes, donc d'un côté, t'as l'engagement social du personnage d'Éric Papaty, qui lui veut faire une station de télé pour un peu rallier les gens à la cause noble ancestrale. D'un autre côté, c'est ça, t'as le côté plus mystique, culte des trois jeunes femmes qui vouent un culte justement à Kateri Tekakwitha. Ça, c'est une sainte qui est décédée en 1680. C'est la première canonisée, la première sainte, en fait, autochtone d'Amérique du Nord. Puis ça, donc ça, c'est le côté plus culte. Puis t'as le côté plus de haine et de violence, pratiquement, du point de vue de Shane, qui, lui, est très, très, très réclus avec sa musique, tout ça, mais qui, je sais pas, ça sort de façon violente un peu, tout ça, ces symboles-là. Donc, j'ai trouvé que les trois étant tellement différentes, je trouve que le portrait est assez vaste au final.
Ben, je suis assez d'accord avec toi. Puis, je trouvais qu'en plus, la forme qu'il a empruntée, c'était vraiment intéressant parce qu'on est, on est dans quelque chose de quasiment expérimental, en fait.
Ouais.
Les trois exploits sont vraiment. Ben, ils clashent tout en s'harmonisant, tu sais. C'était vraiment l'histoire qui est très. Ben justement là c'est une expérimentation je pense avec le mec qui écoute de la musique dans ses écouteurs, puis on fait juste se promener, se balader avec lui. C'est ultra lyrique. T'as l'histoire qui est vraiment plus concrète sur la misère elle-même avec le jeune qui construit sa station de télé là, son espèce d'antenne télé pour diffuser ses images. Puis les trois filles, ben là on est dans quelque chose de plus dramatique, de plus terre à terre d'après moi. Mais en même temps je trouvais que c'était exploiter la misère, mais avec une espèce de touche d'espoir là-dedans. Ouais. C'était pas la claque d'en face de ces films à la journal d'un coopérant ou des trucs là, qui sont hyper, hyper choquants. On est vraiment dans quelque chose de très triste, mais de plein d'espoir parce que c'est des gens qui ont des projets, qui veulent faire quelque chose, en fait, qui veulent faire quelque chose pour que ça change. Ouais. Fait qu'il y avait cet espoir-là qui était de plus, je pense, que ces autres projets habituellement à Morin, où d'habitude on est vraiment, là, c'est une espèce de trucs, ben, c'est des trucs super dark, mais avec aucun espoir au bout du compte, là.
Ben, j'ai trouvé que c'est ça. Dans Quatre soldats, il a comme pris une espèce de tangente un peu plus lyrique, un peu plus poétique, j'ai l'impression, toujours en gardant un côté cru, tu sais, qui lui va tellement bien, mais puis je pense que ça va encore plus dans cette direction-là avec Trois histoires d'Indiens. On est vraiment dans la fable, on est vraiment dans le surréalisme. Puis c'est pas sans déplaire, par contre, un peu statique, un peu. J'aurais envie que ça gueule très, un très peu plus par moment, je sais pas. Je trouve que. Je sens que c'est l'esprit wild de Robert Morin qui s'est lui-même posé. Puis au final, je me demande un peu pourquoi, je t'avoue. Je sais pas qu'est-ce que t'as en pensé, Paul.
Ben, vous semblez très positif sur le film.
Ah, toi, t'as pas aimé ça,
du coup. Ce qui est bien, mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était le plus malhabile des films de Robert Morin que j'ai vu. Je sais pas tout. Vraiment, je trouve que les trois histoires, si on les prend individuellement, sont très faibles pour diverses raisons. Mm-hmm. L'espèce de gars qui se promène, tu sais, en regardant au loin avec sa musique classique dans le tapis, je trouve que ça fait très cégepien comme principe. En plus, bon, c'est des noms professionnels qui sont pas. Surtout Éric Papaty, j'ai vraiment de la misère. Je trouve qu'il y a quelque chose. Pourtant, il y a une façon de parler qui est quand même assez fascinante. Un français à la fois international, mais. Bon, avec un accent, on l'imagine.
Mais on s'est habitué, en fait, pendant le film, parce qu'au début, moi aussi, j'avais de la misère un peu à comprendre. Mais il y a un accent, en fait, je pense qui s'appartient aussi à sa communauté. Là.
Ouais, ouais. Mais c'est aussi dans son attitude, dans sa façon de jouer, je trouvais ça vraiment agaçant. J'avais vraiment la misère, l'espèce de faux positivisme, là, naïf un peu. Puis,
je sais pas, moi je trouve que c'est un petit prince ou c'est un petit, tu sais, je sais pas, dans le sens un peu naïf du terme, tu sais, c'est comme si lui ne voit pas la complexité peut-être des enjeux, l'espèce de point de vue un peu bonasse de comme ben je vais changer le monde puis je vais faire voir aux gens que notre culture est encore vivante, mais tu sais, puis finalement au final c'est drôle parce que sans aller trop dans la fin du film, mais c'est cette espèce de petite énergie bon enfant là qui finalement a la meilleure répercussion sur sa communauté dans un certain sens. Au terme du film. Donc, encore là, moi, je trouve que... Moi, je l'ai pris d'un point de vue vraiment fable. Puis je trouve qu'il fit dans le contexte où c'est pas nécessairement réaliste au point de vue de ses enjeux, de la façon dont il s'y prend.
Je suis très d'accord. Puis ça fait vraiment écho à Quatre soldats, mais dans une autre esthétique,
ouais.
D'après moi. Je trouvais que ça faisait écho, justement, comme tu dis, une fable, une espèce de conte, en fait, à trois dimensions, là.
Ouais. Mais je peux comprendre le côté fable un peu, mais justement, ce qui est bien dans une fable, c'est la manière de raconter, c'est l'enchantement, tu sais, c'est les artifices. Ce film-là, bon, non seulement je trouve que chaque histoire individuellement, si on les prend comme ça, sont assez faibles, comme un peu trois courts-métrages qu'on alternerait à travers un montage un peu aléatoire, mais en plus, je trouve que c'est vraiment moche, c'est mal filmé, puis je veux dire, c'est bien beau mettre des musiques classiques pour un peu couvrir le tout, faire la liaison, mais...
Moi, c'est la musique classique, je l'ai pas vu comme ça. Je voyais vraiment ça quelque chose qui clashait en fait avec l'esthétique, justement. C'est de la grosse musique hyper travaillée, hyper
Pompeuse, ouais.
léchée, très orchestrale. Puis on s'en va à côté, on a une esthétique vidéo, justement, un peu mal cadrée. Puis l'esthétique qui me rappelait en fait du documentaire, là. Même si on n'est pas dans la caméra subjective, on dirait vraiment qu'on regarde des protagonistes d'un point de vue de documentaire, là.
Parce que je trouve que oui, il arrive à bien nous montrer le quotidien de ces gens-là, et oui, c'est un sujet important qu'il faut aborder, ça c'est clair. Mais là où son message est noble, je trouve que la façon qu'il a de l'apporter est franchement, c'est plate, là. Je ne sais pas comment dire ça
Non,
autrement,
mais en même temps,
mais...
je veux dire, tu dis je suis très positif, hein, j'ai mes bémols. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, tu parlais de maladresse. Moi, je pense, encore là, peut-être que j'ai des excuses du point de vue qu'effectivement, il y a quelque chose d'un peu maladroit dans la façon comment que les personnages réagissent à la violence un peu de leur réalité sociale extrêmement difficile. Donc, on dirait que c'est vrai que j'ai un petit peu excusé certaines facilités ou certaines naïvetés de mise en scène et de montage parce que je l'ai peut-être pris d'un point de vue, tu sais, subjectif au niveau des personnages. Mais c'est vrai que des fois, moi aussi, j'ai roulé des yeux. Comme à un moment donné, il y a une opposition vraiment primaire entre... T'as comme le Eric Papatti qui filme comme des animaux pour montrer aux Autochtones qu'il faut retourner dans la nature et que c'est beau. Puis après ça, t'as comme le plan d'après, t'as deux enfants qui jouent à des jeux vidéo violents. Puis là, t'es comme...
Ouais.
Sérieusement? Genre, Robert, t'es capable de vraiment mieux que ça. Il y en a eu des comme ça tout le long du film. Mais au final, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir un ressenti assez positif, je t'avoue. Mais on est loin de ses meilleures œuvres. Ça, on va le dire. D'entrée de jeu. Pour moi, en
Oh
tout
oui,
cas,
ça c'est sûr.
on est vraiment loin de ses meilleures œuvres. Ça, on va se le dire.
Ouais, puis encore une fois, je trouve que ça, Robert Morin, je trouve que la plupart de ses projets, je trouve que c'est plus intéressant de l'écouter en entrevue, de voir l'historique du projet, de voir comment il a fait ça, que le résultat. Puis c'est souvent ça un peu que j'ai. Malgré que c'est ça, en réécoutant Yes sir, Madame cette semaine, je suis convaincu que c'est un grand film québécois.
Oh
Puis
my God, ouais.
je trouve que c'est vraiment une bonne utilisation de la vidéo. Mais ici, je trouve que c'est un peu abstrait et puis. Je pense que si ce film-là n'était pas signé Robert Morin, on s'y intéresserait beaucoup moins. Je sais pas. Je pense qu'on excuse beaucoup de choses par son parcours, par son passif, mais l'intention est noble. T'sais, c'est vraiment important qu'on monte les communautés puis qu'on en parle. Mais j'ai trouvé que dans ce film-là, c'est fait de manière
Ouais.
très maladroite, malhabile.
Ce que j'ai trouvé vraiment audacieux dans son point de vue, par exemple, puis ça prenait vraiment des couilles pour le faire, c'est de comparer les réserves autochtones au ghetto palestinien. Tu sais, il y a comme vraiment une séquence, moi je trouve que c'est la plus forte séquence du film, probablement, où t'as juste la famille qui regarde un documentaire sur ça, là, sur les Palestiniens qui pour la plupart, en fait, la nouvelle génération, parce qu'on parle encore une fois de la nouvelle génération des jeunes autochtones,
Ouais.
c'est ceux qui n'ont jamais connu rien d'autre, là, que la réserve, là, qui romantisent complètement la façon de vivre d'antan sans ne jamais l'avoir côtoyé de près ou de loin. Puis de comparer ça avec les Palestiniens qui rêvent de leur Palestine sans jamais y avoir mis les pieds, tout ça, j'ai trouvé ça, là, le film a pris une coche pour moi, en fait. Quand j'ai comme vu qu'il allait être aussi critique dans son sujet, j'ai fait wow.
Ouais, cette scène-là est forte, puis je trouve qu'il y a quand même quelques très bonnes idées, comme par exemple près du début du film, il y a une espèce de course de remorque, là,
Ah
de
ouais.
semi-remorque, style, je sais pas moi, Fast and Furious, une espèce de... Ben, mais non, mais pas Fast and Furious, mais tu sais, des courses de 100 mètres, là, avec des gros camions semi-remorques, tu sais, qui garochent la boucane, puis avec les petites pitounes sur les chars, évidemment,
Ah, c'est
l'alcool à flot.
décadent, ouais.
Puis ça, j'ai vraiment trouvé que c'est une bonne scène, mais on dirait, tu sais, ça apporte quoi au récit? Je trouve juste que... Il manque un peu une espèce de fil narratif intéressant. Tu sais, je trouve que ça paraît que le film a été tourné sur 4 ans à coup de une ou deux journées par-ci par-là. Ensuite, ça reste à voir, j'ai l'impression. C'est toujours bien d'encourager le cinéma québécois, mais pour moi, il faut vraiment aller voir ces autres films. T'sais, si c'est le premier film que vous écoutez de Robert Morin, je vous conseille d'aller voir ces autres films-là. Donc, ben ça fait pas mal de tours. Donc, qu'est-ce qui sort en DVD cette semaine, Rémi?
Mes trois suggestions en fait de la semaine, dans les nouveautés, il y a Philomena qui est, je pense que personne n'a vu, là, qui est
Ah, hey, je l'ai vu, moi.
Ah, pour vrai? Ben ouais, tu n'as pas donné beaucoup de commentaires là-dessus, je m'en souviens pas en tout cas.
Non, là. Je n'ai pas parlé au podcast. C'est cute. J'ai trouvé que les films british, en fait, étaient de loin les pires films nominés aux Oscars cette année, ce qui est d'habitude, d'habitude c'est quasiment l'inverse. Il y a des belles choses, mais encore là, ça fait un peu. C'est un peu le syndrome intouchable, là, je sais pas, là, l'espèce de corde sensible un peu facile là, qu'on joue comme on essaierait de jouer du violon, mais comme. Sans grande virtuosité, j'ai l'impression. Mais c'est pas mauvais. Fait que tu fais bien le.
J'aime ça quand Pascal, tu réussis à planter deux films en même temps.
Ouais, c'est ça, c'est pas pire.
Ensuite, The Secret Life of Walter Mitty, le film de Ben Stiller. Et finalement, celui que je garde pour la fin, on a parlé d'Orson Welles récemment. C'est Touch of Evil Limited Edition, un Blu-ray en fait sur lequel il y a une version, la version du réalisateur, la version qui aurait dû être Touch of Evil. Donc voilà, il y a trois versions, en fait, je pense, dans ce coffret-là, avec entre autres un petit livret qui explique des trucs sur la production du film. Là. Vraiment un cadeau à se faire pour tout cinéphile.
Mm-hmm. Puis en salle, j'avais préparé pour toi, Pascal.
Ah, vas-y.
Donc, je recommande, il y a le documentaire Grizzly, énième film de la branche Disney Nature, sur des grizzlies, pourquoi pas. En solitaire de Christophe Offenstein, film français avec...
Robert Redford, il y a Robert Redford dans ce film-là, non?
Ouais, ça, c'est un peu le penchant français hein, de All Is Lost. C'est drôle de voir les deux films un peu qui sortent en même temps. Et Transcendence de Wally Pfister, le directeur photo attitré de Christopher Nolan, qui signe ici son premier long, qui a l'air intéressant, un film de science-fiction. Et en suggestion de la semaine sortie, ben c'est en fait une grande semaine à la Cinémathèque québécoise. Hein. C'est le cycle Le choix des pianistes, avec des pianistes invités de partout dans le monde. Alors ça, c'est vraiment une belle soirée. Entre autres, une soirée gala consacrée à Charlie Chaplin qui coûte 150$. Mais pour les autres d'entre nous qui n'ont pas ce budget-là, samedi le 19 avril à 20h30, quatre courts-métrages de Laurel Hardy accompagnés par Gabriel Thibodeau.
Ouais.
Alors ça, c'est la Cinémathèque québécoise. Merci beaucoup, Jason, d'avoir été des nôtres.
Ça fait plaisir, n'importe quand.
Et on peut te trouver le 4-3 à l'adresse le43.com.
Ouais, le43.com, ouais.
Et vous avez aussi une page Facebook qu'on peut aller aimer.
Ouais, puis qu'on essaie d'alimenter. On a également un fil Twitter. Puis on a un podcast, mais c'est justement, vous nous avez un peu montré le chemin, parce qu'on a commencé à en faire un peu après vous avoir suivi. Par contre, mon compagnon Maxime est à New York en ce moment, donc il habite là pour le printemps, fait que c'était pour ça là, que je vous ai approché là, finalement, parce que ça me démangeait, parce que j'aime beaucoup ça, faire de balado-diffusion. Donc merci beaucoup de m'avoir intégré à cette émission-là, puis c'est ça, donc vous pouvez suivre le 4-3, donc on continue de faire de la critique. Et d'ailleurs, justement, c'est peut-être une suggestion, si moi je peux me permettre d'en faire une également, je conseillerais aux gens d'aller voir Tel père, tel fils de Koreeda, oui. Qui est sorti, tout dépendant quand l'émission va sortir, mais vendredi passé, c'est un film absolument magnifique. Moi, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis le début de l'année, donc fortement, allez le voir absolument.
Oui, je te soutiens là-dessus aussi. J'en avais fait une bonne critique la semaine dernière aussi. C'est ça, il était sorti vendredi passé, toujours en salle, à l'excentrisme, un peu partout. Oui, très bonne suggestion, ouais. Jason. Je te soutiens à 100%.
Donc, c'est ton film de l'année, Jason, mais t'as pas encore vu The Raid 2, c'est ça?
J'ai pas encore vu The Raid 2. Non,
il lâche pas le morceau.
Qui sait? Donc, on s'en reparlera.
Parfait. Donc, merci beaucoup. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landreau et j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante. Merci encore, Jason.
Pour son premier Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire, Yann Kermadec remplace au pied levé Franck Grosvenor. Et au troisième jour, il est tout simplement second au classement général.
T'as foutu, t'as perdu une place. T'es 100 fois trop au sud. T'as une merde?
Mais Franck, t'inquiète, je sais ce que je fais.
T'as un bateau sous ta responsabilité, je te rappelle.
Je sais, là, c'est super, tu remontes comme un malade au classement.
C'est juste, prends 3 secondes et tu me donnes les nouvelles, quoi.
Il avait promis de me rappeler, papa. T'as peur pour lui?
Putain de merde! Comment t'es monté? Qu'est-ce que tu fous là?
Tout ça, c'est ma course. Si jamais on me voit, je suis mort. Tu comprends ou pas?